Vous écoutez On lit pour vous.
Un nouveau Klondike à risque, l'acquisition de cliniques médicales par des investisseurs privés. Un texte de Marco Laverdière, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir. Marco Laverdière est avocat, chercheur associé de la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de la santé et au HPOD de l'Université de Montréal, enseignant au programme de deuxième cycle en droit et politique de la santé de l'Université de Sherbrooke et directeur général d'un ordre professionnel. Voici son opinion. Dans un article paru dans Le Devoir, on rapportait que des cliniques médicales passeraient aux mains d'entreprises d'autres domaines, un phénomène qui n'est pas propre au Québec. Le Globe and Mail et le New York Times ont rapporté qu'il en était également ainsi au Canada et aux États-Unis, comme ce l'est sans doute aussi ailleurs dans le monde. Cette réalité n'est pas limitée à la médecine, étant aussi observable pour d'autres professions du secteur de la santé, pharmacie, optométrie, médecine dentaire, etc. L'appétit des investisseurs privés pour le domaine de la santé n'est pas nouveau, mais il semble maintenant décuplé par certaines opportunités qui découlent de divers facteurs, qui ne se limitent probablement pas qu'à l'absence d'intérêt chez les plus jeunes professionnels pour les responsabilités de gestion d'une clinique. Les perspectives de croissance y jouent sans doute pour beaucoup dans le contexte d'une demande de services que ne peut combler un système public perpétuellement en crise. Les gouvernements, faisant eux-mêmes appel au secteur privé, comme en témoigne le « plan santé » de l'actuel gouvernement du Québec, plusieurs opportunités sont offertes, que ce soit la création de mini-hôpitaux privés ou d'autres formes de sous-traitance à des cliniques privées d'une partie de l'offre de services des établissements publics. Une telle approche, déjà possible sous la loi actuelle, le restera en vertu des dispositions du projet de loi 15 adopté sous le bâillon en décembre 2023. Par ailleurs, le nécessaire décloisonnement de diverses professions de la santé, également prévu par le plan santé, profite aussi au secteur privé, lui permettant d'offrir un plus large éventail de services hors du régime public, sans s'encombrer des restrictions et limites de ce dernier. C'est le cas avec les infirmières praticiennes spécialisées qui rendent des services en cabinet privé aux frais des patients, s'ajoutant ainsi à l'offre des médecins toujours plus nombreux à quitter le système public. Ces mêmes bases permettent à diverses plateformes commerciales de télésanté de prospérer, souvent en partenariat avec des assureurs privés. Bref, les investisseurs comprennent que, plus que jamais, diverses sources de financement sont disponibles dans le secteur de la santé, qu'elles soient publiques, privées ou mixtes. Des règles faciles à contourner. En principe, les cabinets des professionnels de la santé devraient être sous contrôle exclusif de ces derniers, suivant la réglementation adoptée par les ordres professionnels sur ce qu'on appelle communément l'incorporation. Par exemple, le règlement applicable aux médecins exige que la totalité des actions avec droit de vote et les postes d'administrateurs dans une société d'exercice de la médecine soient détenus par des médecins. Ces règles s'appuient largement sur l'idée traditionnelle qu'on se fait du principe de l'indépendance professionnelle. Comment, alors, des investisseurs peuvent-ils acquérir des cliniques médicales? Le fait est que la réglementation des ordres professionnels est assez facilement contournable par diverses stratégies qui visent la mainmise sur toute activité d'une clinique qui offre un certain niveau de rentabilité et qui, légalement, ne constitue pas une activité réservée aux professionnels. Selon le cas, un professionnel peut alors se retrouver dans une situation où il exerce un contrôle limité sur son cadre d'exercice, sélection et volume de patients, encadrement du personnel de soutien, tarification des services, etc. S'il n'est pas exclu que la constitution d'un groupe bien structuré, soutenu par des investisseurs, puisse avoir certains effets positifs sur les services offerts, au chapitre de l'innovation technologique, par exemple, il y a par ailleurs certaines données suggérant qu'il pourrait en résulter une hausse significative des coûts pour les patients et les assureurs publics ou privés. La qualité et la sécurité des services pourraient aussi s'en trouver compromises, du moins si l'on en juge par certaines études sur la performance d'hôpitaux et de centres de soins de longue durée passés aux mains de firmes d'investissement privés aux États-Unis. Quand le respect des obligations déontologiques est compromis par des pratiques de gestion ou commerciales qui affectent la qualité ou la sécurité des services, les ordres professionnels disposent de moyens limités pour intervenir à l'égard des entreprises en question. Non seulement il peut être difficile de se confronter à de grands groupes privés qui disposent de moyens financiers importants pour soutenir des contestations judiciaires, mais les pouvoirs des ordres professionnels sont surtout orientés vers l'encadrement de leurs membres sur une base individuelle. La commission Charbonneau avait d'ailleurs relevé cette limite de la réglementation professionnelle en formulant la recommandation 28 visant à ce que les firmes de services professionnels liées au domaine de la construction soient assujetties au pouvoir d'encadrement des ordres professionnels dans leur secteur d'activité. Quant aux mécanismes d'encadrement prévus par les autres lois applicables dans le domaine de la santé, ils ne se sont pas toujours révélés comme étant particulièrement efficaces pour prévenir certains écueils. L'exemple récent de l'insolvabilité d'une importante clinique médicale privée qui met à risque le suivi médical de quelque 300 000 personnes de l'ouest de l'île de Montréal témoigne d'une certaine impuissance des autorités publiques à l'égard des opérations des entités en question. En définitive, si on doit vivre avec un système de santé qui fait de plus en plus de place à ses acteurs privés, peut-être devrait-on ainsi envisager un encadrement juridique à la hauteur des enjeux et des risques en cause. En cette matière comme en d'autres, il vaudrait mieux agir avant qu'une trop grande quantité de dentifrice ne soit sortie du tube. C'était un nouveau Klondike à risque, l'acquisition de cliniques médicales par des investisseurs privés. Un texte de Marco Laverdière, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir.
Mona Lisa est écœurée de la soupe. Un texte de Mario Girard, paru le 10 février 2024 dans La Presse. Le 28 janvier 2024, deux militants de Riposte Alimentaire ont aspergé de soupe la Joconde dans la salle du Louvre où elle trône. Il s'agit d'une seconde attaque visant le légendaire portrait de Léonard de Vinci. En 2022, un homme avait entarté l'œuvre protégée par une vitre de protection. Si ça continue comme ça, Mona Lisa va bientôt afficher un air de bœuf plutôt que son énigmatique sourire. Le phénomène des militants qui s'attaquent aux œuvres d'art pour faire valoir divers combats, changement climatique, pauvreté, etc., perdure. Mais pour combien de temps? La désapprobation du public serait-elle en train de faire changer d'idée les militants? À l'automne 2022, deux jeunes militantes ont jeté de la soupe aux tomates sur les tournesols de Van Gogh, à la National Gallery de Londres. Leur geste a été imité par deux activistes écologistes qui ont lancé de la purée sur les meules de Claude Monet exposées au musée Barberini de Potsdam en Allemagne. quelques jours plus tard, d'autres militants ont lancé de la sauce tomate sur la jeune fille à la perle de Vermeer, exposée au musée Moritzschwy de La Haye. Puis, ce fut au tour de « Mort et vie » de Gustav Klimt, accroché au musée Léopold de Vienne, de recevoir un liquide noir. « Les pêchers en fleurs » de Vincent Van Gogh, Courtauld Gallery Londres, « La charrette de foin » de John Constable, National Gallery Londres, et « Le printemps de Botticelli », Galerie des Offices Florence, ont aussi été la cible d'activistes. La plupart de ces actions sont menées par de petits groupes placés sous l'égide du réseau international A22 Network, dont Just Stop Oil et Lesti Generation, dernière génération, font partie. Ce réseau n'est pas là pour sensibiliser, supplier ou divertir, mais pour forcer le changement. Quand ils en ont marre de la soupe ou de la purée, ces militants collent leurs mains sur le mur ou le plancher des musées. Mais gare à cette pratique, elle peut jouer de mauvais tours. Au musée Porsche, situé à Wolfsburg, en Allemagne, des militants ont collé leurs mains sur le sol de l'institution au pied de voitures luxueuses. Le propriétaire, qui a complètement ignoré leurs doléances, a éteint la lumière, baissé le chauffage et a quitté les lieux pour le week-end. Les écolos sont restés en plan pendant 42 heures. Comme beaucoup de gens, j'avoue que je suis devenu imperméable à ces gestes destinés à opposer l'art à diverses causes. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'art ou le droit à une alimentation saine et durable? A déclaré une militante après s'en être prise à la Joconde il y a quelques jours. Pourquoi vandaliser l'art afin de dénoncer des injustices sociales ou une urgence climatique alors que l'art joue déjà ce rôle? L'aberration est là. Après plus d'un an de ces opérations, je ne vois là que des opérations marketing machinales destinées à attirer l'attention du public et des médias. Message à ne pas m'envoyer, en parlant de cela, vous jouez leur jeu. La preuve que tout cela n'est que du marketing. La plupart des œuvres ciblées sont protégées. Ces militants, sans doute bien conseillés par des avocats, font ce choix parce qu'une fois devant le tribunal, les accusations seront moins graves. Les militantes qui ont aspergé le Van Gogh de soupe ont été accusées de dégradation pour un montant inférieur à 8 500 $, car le tableau, évalué à 80 millions de dollars, est protégé par une vitre. Le collectif, qui s'en est pris au printemps de Botticelli, a affirmé avoir consulté des experts en restauration d'art avant de faire son action. Ben, coudonc. De l'avis de plusieurs experts, les grandes marches pour le climat n'ont plus d'écho. Voilà pourquoi les activistes font des gestes de désobéissance civile à petite échelle, mais qui ont un fort impact sur l'imaginaire, de là le choix des chefs-d'œuvre. Mais après des mois d'action dans les musées, on dirait que les militants réalisent que leurs gestes sont contre-productifs. On comprend que ces actions ne rallient pas les citoyens en général, mais mobilisent davantage les personnes déjà acquises à la cause. Une usure semble s'être installée. Et une perte de vitesse aussi. Le nombre d'interventions a diminué au cours des derniers mois. Les actions dans les musées ont perdu de leur poids, pense l'activiste d'Ultima Generazione, Michele Ghiuli. Cette action sur le printemps de Botticelli a eu un grand impact médiatique, mais je crois qu'elle n'a pas d'impact réel, a-t-il déclaré sur les ondes de la radio-télévision suisse, RTS, en novembre 2023. Que feront maintenant les militants pour attirer l'attention sur leur cause? Les salles de spectacle ne semblent pas être une meilleure avenue. Souvenez-vous de ceux qui sont montés sur la scène d'un théâtre londonien en pleine représentation des Misérables. Ils ont quitté l'endroit sous les huées des spectateurs. La même chose est arrivée au militant écologiste qui s'est attaché avec un cadenas à un élément du décor de la flûte enchantée à l'Opéra Bastille. Le rideau est tombé sous les sifflets et des spectateurs qui criaient « Dégage !» allons-nous assister à une montée de perturbations lors de grands événements publics, notamment ceux du monde sportif? Roland-Garros, le Tour de France et le Grand Prix de Formule 1 ont tous été visés au cours des derniers mois. Chose certaine, on a fait le tour du scénario des musées. Il est devenu une performance normalisée, une sorte d'habitude. Il est temps de passer à autre chose et de faire preuve d'une créativité aussi grande que celle des artistes dont les œuvres sont aujourd'hui machinalement aspergées de soupe aux tomates. C'était « Mona Lisa est écœurée de la soupe », un texte de Mario Girard paru le 10 février 2024 dans La Presse.
Sarah Fournier, « La natation m'a sauvé la vie », un texte de Simon Drouin, paru le 14 février 2024 dans La Presse. En février 2012, Sarah Fournier et Catherine Savard représentaient le club de natation CSQ aux championnats nationaux de l'Est à Gatineau. Gagnante de 6 médailles, la première avait été choisie meilleure nageuse de 15 ans et moins. Auteur d'un balayage des 3 épreuves de papillon, la seconde avait décroché le même titre chez les 16 ans et plus. Moins de 2 mois plus tard, Savard s'est qualifiée pour ses premiers Jeux olympiques à l'âge de 17 ans. De 3 ans sa cadette, Fournier a aussi participé à ses premiers essais olympiques, se classant 27e au 100 mètres d'eau. L'avenir paraissait radieux pour l'adolescente de Loretteville. Fournier a dû attendre 5 ans avant de rejoindre Savard dans une équipe nationale senior. En 2017, les deux nageuses ont uni leurs efforts pour mener le Canada à une médaille d'or au relais 4x100 mètres aux Universiades de Taipei. Un an plus tard, Fournier a pris part au championnat Pan-Pacifique de Tokyo, où elle a fini 6e aux 50 mètres libres, épreuve dans laquelle l'athlète de 6 pieds 1 pouce s'était spécialisée. Ce rendez-vous a été son dernier sur la scène internationale avant les championnats du monde de Doha qui se concluent cette semaine au Qatar avec les compétitions de natation et de water-polo. Dimanche dernier, au terme de la première journée de natation en piscine, Fournier et Savard se tenaient la main sur le podium, médaille de bronze au cou. Un peu plus tôt, les deux Québécoises, avec leurs coéquipières Rebecca Smith et Taylor Rock, avaient mené le Canada à la 3e place à l'issue d'un palpitant relais 4x100 mètres, remporté in extremis par les Pays-Bas devant l'Australie. Ce n'est qu'en visionnant la reprise que Fournier s'est rendu compte que la Pologne, 4e, menait la course jusqu'au dernier échange. « Ça devait être vraiment le fun à regarder pour les gens », a-t-elle constaté au téléphone 2 jours plus tard, avant le début de la session du soir où sa compatriote, Ingrid Wilm, a gagné le bronze au 100 mètres d'eau. « Ça va tellement vite quand ça se passe », tu nages, tu sors de l'eau, t'es soufflé et t'essaies d'aller encourager tes coéquipières, se souvient Sarah Fournier. Elle a eu besoin d'une journée pour véritablement comprendre ce qu'elle venait d'accomplir. Ça faisait quand même 7 ans que je n'avais pas vécu ça. On dirait que sur le coup, je ne m'en rendais pas compte. C'est quand l'énergie et toute l'adrénaline sont retombées que j'ai pu me dire « c'est fait, on a réussi ». Quand on lui demande ce que cette médaille représente, Sarah Fournier se tourne vers le collectif. Un relais, on le fait pour l'équipe. Ça nous a donné un élan et une bonne énergie. L'an dernier, les filles n'avaient pas réussi à monter sur le podium. De pouvoir y parvenir, dans une année olympique en plus, c'est super positif. Sur le plan personnel, la nageuse de 27 ans s'est faite plus circonspecte, répétant qu'elle aura besoin de temps pour mesurer ce qu'elle a réalisé. Elle s'est ouverte après une question au sujet de son éclipse internationale de 5 ans et demi. Pour résumer, j'ai reçu un diagnostic de trouble alimentaire sévère quand j'étais jeune. J'ai toujours réussi à bien gérer ça quand même. Après les nombreuses hospitalisations, j'ai été plus stable. Mais après 2018, j'ai peut-être pris une petite débarque. Ça a été plus difficile mentalement. J'ai dû prendre un peu de recul. Quand la tête n'est pas là, c'est sûr que les performances ne suivent pas. 42 kilos. Sarah Fournier souffre d'anorexie depuis l'adolescence, après avoir été victime d'un viol. Dans un témoignage choc au quotidien Le Soleil en 2019, elle a raconté que vers l'âge de 15 ans, son poids ne dépassait pas 42 kilos, alors qu'elle mesurait près de 1,83 mètres. Son cœur battait à 19 pulsations minute. Les médecins ne comprennent pas comment je suis encore en vie, avait-elle dévoilé au journaliste Olivier Bossé. J'ai perdu un méchant bout de cette année-là. Je n'en garde aucun souvenir. À 19 battements, j'étais comateuse. J'ai été hospitalisée à 3 reprises sur une période d'environ 1 an et demi, 2 ans. Avant de rentrer, je nageais 2 fois et je courais 40 minutes par jour, sans manger, ou une carotte dans ma journée, un bébé carotte. Malgré ce régime infernal, elle s'est accrochée à la natation, quitte à plonger 15 minutes, le maximum que lui autorisaient ses médecins au début. Quand elle prenait 500 grammes, elle avait droit à 15 minutes de plus. Vous écoutez Sarah Fournier, « La natation m'a sauvé la vie », un texte de Simon Drouin, paru le 14 février 2024 dans la presse. Le plus difficile, c'est de communiquer. Cette maladie-là, ce sont des hauts et des bas, a-t-elle repris avec la presse mardi. J'ai quand même été atteinte sévèrement. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va guérir complètement. Je dois apprendre à vivre avec ça. Cette période l'a obligée à prendre un pas de recul par rapport à la natation, sans jamais remiser ses maillots. Aux dernières sélections olympiques de 2021, elle a fini 2e aux 50 mètres libres, ratant le standard de qualification A par un peu plus d'une demi-seconde. Elle s'est imposée une large dose de pression que les réseaux sociaux ont amplifiée. À un moment donné, j'ai dû débarquer des réseaux sociaux parce que ça ne fonctionnait pas. J'allais voir les autres athlètes, leurs performances. Sachant que les essais arrivent, tu te demandes « Est-ce que je suis prête ou pas ?» On se pose beaucoup de questions. C'est sûr que l'image corporelle entre aussi en ligne de compte, a-t-elle repris. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité. Plusieurs éléments ont fait en sorte que ça a flanché pour moi. J'ai dû me retirer un petit moment pour prendre soin de ma santé et de mon mental. Je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais atteindre de nouveau les niveaux que je voulais si je ne prenais pas soin de moi. Sa famille, son entourage et une équipe médicale lui ont donné tout l'encadrement requis. Mais souvent, le plus difficile, c'est de le communiquer, a-t-elle précisé. Au départ, on a besoin des autres parce qu'on ne le voit pas tout le temps. Ensuite, tranquillement, pas vite, on fait les démarches nécessaires pour être capable de se remettre à niveau. À travers les tempêtes, ce qui s'appelle maintenant le Club de natation Région de Québec, CNQ, dont elle porte les couleurs depuis une 20aine d'années, a été une aide de tous les instants. Tous les membres du club sont un peu au courant de la situation, a souligné celle qui travaille comme coordonnatrice administrative pour le CNQ. J'ai toujours eu beaucoup de soutien. Si je vais moins bien, ils le voient même avant moi. Ils vont me demander « Ça va-tu, Sarah ?» Marc-André Pelletier, son entraîneur depuis une quinzaine d'années, est probablement la personne qui lui a posé cette question le plus souvent. Sa plus grande force, c'est sa résilience, a raconté celui qui fait partie de l'équipe d'entraîneurs à Doha. Même si elle est vieille, c'est son premier championnat du monde. Je trouve que c'est un bel exemple pour les gens. On ne lâche pas, comme dans un feel-good sport movie. Continuez à avancer. Si son récit, livré spontanément, peut servir à d'autres, Sarah Fournier en sera très heureuse. Je suis assez ouverte. C'est clair qu'énormément de gens vivent cette problématique. Plus on en parle, mieux ça ira. Il faut éviter les tabous. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, et plus souvent qu'on le pense, souligne Sarah Fournier. Plus prosaïquement, elle a dû surmonter une micro-déchirure à un tendon du coude qui l'a ralentie pendant tout l'automne. Elle n'a pu reprendre l'entraînement complet dans l'eau qu'un mois et demi avant les Mondiaux. Son 100 mètres dans le relais était son premier en compétition depuis sa victoire au championnat canadien l'été dernier. Jeudi, elle s'alignera dans les séries du 100 mètres individuel dans le même départ que l'increvable Sarah Sjöström, la Suédoise détentrice du record mondial. Elle est également candidate pour le relais mixte 4 x 100 mètres de samedi. Consciente qu'elle n'a pas retrouvé son meilleur niveau, elle garde le cap sur les essais olympiques de Montréal en mai. En ce moment, j'essaie de prendre chaque occasion pour remplir ma valise d'expérience pour être prête. Je suis rendue là, et aux essais, quoi qu'il arrive, je sais que j'aurai fait tout ce qui est en mon possible. 12 ans après ses championnats de l'Est, où elle avait brillé, Sarah Fournier est en effet encore là, à enfiler les longueurs dans le chlore, non sans parfois se questionner. À un moment donné, tu te dis « Crime, est-ce que ça vaut la peine? J'en suis où? » Parce que ça demande énormément d'énergie. Mais je pense que la natation m'a sauvé la vie aussi. Ça m'a permis de vraiment me rebâtir et d'être plus équilibrée. Quand j'en aurai terminé avec le sport, je vais être plus saine envers moi-même. Je vais être capable de continuer à avancer dans la vie. C'était Sarah Fournier, « La natation m'a sauvé la vie », un texte de Simon Drouin, paru le 14 février 2024 dans la presse.